date.
L'audience est ouverte.
Bonjour à toutes et à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous rasseoir, vous asseoir d'ailleurs.
Parce que oui, pas vous rasseoir.
En principe, vous venez d'arriver.
Donc. Oui, c'est ça.
Donc cette émission de Radio Rancière que vous connaissez, que vous aimez, ça je le sais, elle vous permet, et chaque mois, grâce à Maître Philippe Arbouche, ancien avocat. Est-ce qu'on dit ancien avocat ou toujours avocat, finalement?
J'ai peut-être tort, mais... Je suis avocat honoraire.
Avocat honoraire.
Honoraire. Ça veut dire que j'ai fait plus de 20 ans de barreau. J'ai demandé l'honorariat. Je l'ai obtenu. C'est un titre très... Bon, c'est pour faire chic.
Hein. Oui.
Mais je n'exerce plus actuellement, d'accord, même si j'ai encore le droit d'exercer.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez éventuellement remplir une affaire, vous
dites. Oui, absolument. Mais il faut que je demande l'autorisation au bâtonnier.
D'accord.
Voilà, bon, c'est anecdotique. Mais on dit toujours avocat, ça fait plaisir, ah ça, oui. Flatte, ça flatte.
Alors l'audience est ouverte, c'est une émission qui vous permet de pénétrer les arcanes de la justice, de mieux comprendre comment elle fonctionne. Et puis surtout, ça nous permet depuis le début là, de l'année, depuis le mois de septembre, de vous présenter, de vous représenter les affaires qui ont vraiment défrayé la chronique. Alors là, aujourd'hui, c'est le cas avec deux affaires emblématiques du rôle néfaste que peut jouer... la rumeur sur la justice. Nous allons parler tout d'abord, en premier lieu, de l'affaire Callas. Je suis sûr qu'une partie des auditeurs a peut-être oublié ce qu'était
l'affaire Callas. Oublié, oui, mais c'est dans les esprits marqués quelque part.
Ça va vite revenir. Ça va vite revenir. Et bon, la deuxième affaire, elle est énorme. C'est l'affaire Dreyfus, bien évidemment.
Voilà.
Alors la rumeur peut parfois, effectivement, entraver le bon cours de la justice.
Voilà. Alors en choisissant ces deux affaires qui sont emblématiques, effectivement, c'est un peu on pourrait presque dire c'est un choix un peu facile. Mais j'ai surtout voulu... J'ai pensé à ces deux affaires et j'ai fait le lien entre elles avec le fait que ces affaires commencent de façon bizarre et sont amplifiées par ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire par la rumeur. La rumeur, cette gueuse, disait-on, fut un temps. Mais là, en l'occurrence, dans la première des affaires, donc l'affaire Callas, c'est une forme particulière de rumeur. Évidemment, on n'est pas à l'ère des réseaux sociaux. Hein.
On est en 1761. 61.
Bon, voilà. Il y a peu de Twitter et de Facebook. Mais ça marche bien, quand même. Ça marche bien. Alors Callas, pour rappeler quand même, en un mot. Monsieur Callas est un honorable négociant toulousain, en tout cas c'est un marchand, et de religion huguenote. Et donc, à cette époque, à Toulouse, vraiment, il y a une très grande opposition entre catholiques et protestants. Et il découvre son fils, prénommé Marc-Antoine, pendu dans sa maison, un soir. Et donc, il y a lui, il y a un ami, il y a la servante... Et à l'époque, le corps des suicidés est soumis à un jugement infamant.
Un jugement infamant, ça veut dire qu'on ne l'enterre pas.
Ben non, on l'enterre pas. Oui, c'est ça, on l'enterre pas dans des terres consacrées.
Voilà.
Et donc, il décide de maquiller le suicide en accident. Mal lui en prend, parce que très vite, il avoue la vérité. Sans doute, il y a une petite enquête qui prouve que ce n'est pas un accident. Et la foule s'amasse devant chez eux. Et immédiatement, on ne sait pas d'où vient cette rumeur, mais elle existe. Immédiatement, cette foule dit que les protestants Callas ont assassiné leur fils Marc-Antoine qui voulait se convertir au catholicisme. Oui. Ce dont on a absolument... Enfin, on n'en sait absolument rien. Mais l'affaire prend, à partir de là, une espèce de sens d'amplification... on parle de climat fiévreux, de fanatisme religieux, relayé par un des capitouls qui sont les membres du Parlement de Toulouse. Et donc ça devient l'affaire de... un père a empêché son enfant d'embrasser la religion catholique, à tel point qu'il y a des sermons en chaire qui parlent des hérétiques, qui demandent une sanction exemplaire contre ces hérétiques. Le malheureux défunt est enterré selon le rite catholique. Au milieu, nous disent les textes, d'une foule immense, cercueil escorté par 40 prêtres, des pénitents blancs, etc. etc.
C'est-à-dire qu'on s'empare, du défunt.
Du défunt, et surtout et également, on s'empare de la personne du père et de sa famille, et c'est la torture. On leur inflige la question, on est en 1761.
Ouais, je pensais que c'était terminé, ça,
la question. Faut croire qu'on leur... Non, on leur inflige la question. Et les parlementaires ont à se prononcer sur la culpabilité. Ils ont des doutes, mais la pression de la foule est telle que ce n'est pas possible de ne pas conclure dans ce sens-là.
Finalement, mais ça nous ramène aux réseaux sociaux d'aujourd'hui, parce que finalement, les réseaux sociaux, parfois, on a l'impression que ce sont eux qui font la politique de la France, parfois.
C'est tout à fait ça. Ouais. C'est qu'en relisant ces différentes affaires, et l'affaire Calas notamment... et j'ai repris l'ouvrage de Voltaire que j'ai à côté de moi. Là, c'est en reprenant cette affaire, on se rend compte que c'est cette pression populaire à un moment donné. Bon, là, à cette époque, ça prend cette forme. On verra dans l'autre affaire que ça prend une autre forme. Mais c'est cette pression. Et surtout, on ne peut plus revenir en arrière. Oui. Alors en l'occurrence, là, le pauvre Calas, on peut d'autant moins revenir en arrière qu'il est condamné. Pour anecdote, je vous dis quand même qu'il est roué en place publique, étranglé par le bourreau et que son corps est brûlé sur le bûcher et les cendres jetées au vent.
On blaguait pas à l'époque.
On n'est pas dans... C'est pas du light, hein. Ouais. Voilà. Mais ça veut bien dire quand même, c'est l'humiliation. Enfin, c'est terrible, quoi. La servante est acquittée, bon, et puis le frère est banni à perpétuité et les deux filles sont enfermées dans un couvent. Bien. Voilà, terminé, au revoir, merci. Et puis, la pression populaire continue à dire que cette famille a mérité, ce sont des hérétiques, un tel châtiment, etc. Et puis, ça bouge un peu, parce que à plusieurs reprises, ce sont des visiteurs qui vont voir cette pauvre veuve Calas et qui sont frappés par ce qu'elle dit des incohérences du procès, sa situation de détresse, ça, on peut la comprendre. Et un certain nombre d'entre eux se reposent la question de la culpabilité. Et Voltaire intervient là-dedans. Alors je ne sais pas par quel canal il entre là-dedans. Il a peut-être été saisi par Crouyer, hein, par des gens, je ne sais pas. Et Voltaire, qui quand même a déjà, a bien sûr une très grosse réputation, fait un travail non pas d'enquêteur, qu'il ne peut pas faire, mais un travail, il demande la réouverture de ce procès. En fait, c'est ça la caractéristique, si vous voulez. Et c'est ça qui m'a un peu intéressé dans cette affaire Calas, idem dans l'affaire qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'à un moment, une personne courageuse, qui a de l'entre-gens, hein,
c'est Voltaire, oui, on imagine, c'est quand même Voltaire.
C'est pas monsieur, hein, bon, tout le monde. Hein. Mais cette personne est suffisamment courageuse, ce philosophe, ici en l'occurrence, au nom de ses idées, au nom de ses idéaux, pour reprendre à zéro. On peut imaginer que ça n'a pas forcément été facile, parce que quand on a l'opinion publique contre soi, eh bien... Et il a facilité la réouverture de ce procès.
Donc quand même, la justice se donnait la possibilité de réouvrir des procès, déjà quand même.
Alors non, en fait, il demande aux hautes personnalités de l'époque d'intervenir. Autrement dit, il demande... une intervention, on dirait aujourd'hui, politique. Hein. C'est même pas, on dirait aujourd'hui, c'est il demande à Choiseul, il demande à Madame de Pompadour et il demande à Louis XV lui-même.
Autrement dit, il peut
difficilement aller plus haut. Et il fait plusieurs libelles dénonçant le scandale, disant que c'est une honte pour la France au siècle des Lumières. Donc vous voyez aussi, là encore, le côté réseaux sociaux.
Oui, puis l'air du temps.
Mais honte pour la France. Attendez, le monarque, quel qu'il soit, aime pas trop qu'un petit gras de papier vienne lui dire que ce qu'il fait est honteux. Donc à un moment donné, bon, il aurait été un écrivain de second ordre, c'était classé. Hein. À un moment donné, il s'acharne là et ça acquiert un retentissement mondial. Et la majorité des Français bascule de l'autre côté et dit que c'est sans doute une monstrueuse erreur. Alors là, les parlementaires qui avaient jugé, puisque c'était comme ça que ça se passe, continuent à valider le procès de leurs collègues, parce qu'on ne déjuge pas. Ouais. Ça aussi, c'est une constante. Hein. On ne déjuge pas, quand même, ce qui a été dit, etc. Et il faut une assemblée de 80 juges, quand même 3 ans après, pour casser la décision et pour réhabiliter Calas, sa famille. Madame Calas...
Les enfants sont sortis du couvent aussi.
Oui, Madame Calas est invitée par le roi. Elle a dû être contente. Et puis, il touche tout le monde une pension, hein, pour compenser finalement cette honte.
Ouais.
Et bien sûr, la mort du père Calas.
Ça y aura séréné la communauté protestante de France aussi, hein, parce qu'elle devait se sentir visée aussi à travers.
Oui.
J'imagine qu'il y avait de ça quand même.
Bien sûr, bien sûr. Alors, ce sont des procès locaux. Sans doute qu'à Toulouse, à ce moment-là, ça n'allait pas très fort entre protestants et catholiques. La preuve. Mais c'est vrai aussi que Voltaire ne s'est pas placé sur le plan religieux. Il s'est placé sur le plan de l'iniquité du procès et du fait que ce pauvre Calas, il était déjà jugé, quoi. Ça aurait pu être une situation inverse. Hein, c'est tout à fait... cette situation est connue parce que Voltaire nous l'a présentée. Mais c'est ça qui m'a intéressé. Voilà. C'est cette rumeur... ça y est, c'est fait.
Ce qui est extraordinaire, c'est le revirement de l'opinion publique.
Ah ouais.
C'est fabuleux, on le voit encore aujourd'hui. Quoi.
Mais c'est ça.
C'est-à-dire qu'on va demander la mort de quelqu'un, la mort du pêcheur, et puis 15 jours plus tard, c'est
rien,
le héros. Quoi.
Rien de nouveau sous le soleil.
Nanard, dont on parlait l'autre jour, Bernard Tapie.
Nanard, il a un enterrement, on lui fait une standing ovation quand il est à Marseille en étant applaudi comme étant le plus beau des Marseillais. 3 ans avant, c'était quand même un gros escroc. Quoi. Et ça, c'est une constante. Ça veut quand même dire que si on parle justice, on ne doit pas parler opinion publique, c'est-à-dire que, bien sûr qu'on en parle, la justice est rendue au nom du peuple français, mais on doit toujours avoir en tête la sérénité nécessaire au débat,
la tête froide, les faits.
Le juge doit pouvoir s'extraire de cette passion. Nos juges en France y arrivent parfaitement bien. Parfois, le procureur qui représente, lui, l'accusation... j'en ai connu en tout cas, font quelques excès en disant l'opinion publique ne permettrait pas, etc. Le juge ne suit pas ça, il ne juge pas pour l'opinion publique. Nos juges contemporains, on va croire que je passe la brosse à reluire, mais c'est vrai, le juge contemporain ne juge pas pour l'opinion publique, il s'abstrait de ce genre de choses.
Rappelons qu'on a failli supprimer les juges d'instruction, ça, je crois.
C'est toujours dans l'air du temps.
C'est toujours dans l'air du temps.
Là, oui, c'est le poil à gratter un peu. Et puis, le juge d'instruction qui instruit, donc qui fait l'enquête avec les policiers et les gendarmes, et le juge qui juge, le juge qui, au final, rendra la décision, qui, lui ou elle, alors là, ne s'intéresse pas au grondement de la foule dehors, quoi. C'est une chance dans nos périodes, quand même. Ouais. Heureusement qu'on a ça, parce que si, en plus des réseaux sociaux, on avait des juges qui soient... je vous laisse imaginer la catastrophe.
On écoute Higelin. Cayenne, c'est fini. C'est vous qui l'avez choisi, Philippe.
Oui.
La chaîne, y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté.
Voilà, c'était Jacques Higelin, Cayenne, c'est fini. On a parlé lors de la première partie de cette émission, l'audience est ouverte, de l'affaire Calas. On vous a rafraîchi la mémoire sur cette affaire qui avait défrayé la chronique. Pour la seconde affaire dont nous allons parler à présent, tout le monde l'a encore en mémoire, même si les moins de 20 ans, les moins de 50 ans, les moins de 80 ans, les moins de 100 ans ne peuvent pas la connaître, comme on dit. Mais en tout cas, c'est toujours... C'est l'affaire Dreyfus.
Oui, l'affaire Dreyfus. Vous savez, c'est pas si vieux que ça, parce qu'à propos des pro-vax et anti-vax, il y avait beaucoup de journaux qui disaient « c'est une nouvelle affaire Dreyfus
oui. ».
Et c'est passé dans le langage courant.
Voilà, c'est resté.
Quand on dit qu'on se dispute autour d'une table à la fin d'un repas familial, on dit « c'est l'affaire Dreyfus ». Et la fameuse caricature où on voit la moitié des convives se fiche sur la figure, c'est, vous vous souvenez sans doute, cette caricature en bas, c'était « ils en ont parlé ».
Ils en ont parlé. Oui, comme quoi ça a été vraiment une ligne de partage jusque dans les familles.
Oui, complètement, ouais. Complètement. Alors... Là, il se trouve qu'on est en 1894, qu'il y a une très forte montée ou persistante de l'antisémitisme, et que on a une affaire réelle au début, puisque c'est une femme de ménage qui ramasse dans les papiers de l'ambassade d'Allemagne un morceau de bordereau contenant des renseignements sur les nouveaux matériels de l'armée française. Bien. Donc il faut savoir qui a écrit ce bordereau. C'est un crime, évidemment, c'est passage à l'ennemi, quoi. Hein. On est en 1894.
C'est la cour martiale, oui.
Ah oui, bien sûr, oui, cour martiale. Et donc le chef du service des renseignements prévient le chef d'état-major, qui prévient le président de la République. L'enquête est menée et il y a une ressemblance entre l'écriture du bordereau et celle d'un officier d'état-major qui s'appelle le capitaine Dreyfus. Donc... capitaine Dreyfus, comme on disait à l'époque, est d'origine israélite, et ça joue en sa défaveur, il est emprisonné à prison. On a des nouvelles analyses graphologiques qui font douter du fait que ce soit bien le capitaine Dreyfus, mais comme l'affaire est révélée au grand public un 1er novembre, dans un journal, alors là, c'est plus les réseaux sociaux, c'est les journaux qui ont un rôle terrible. Le journal de l'époque, c'est la Libre Parole, qui est tenue par un antisémite notoire qui s'appelle Édouard Drumont.
Ah, Édouard Drumont, oui.
Voilà. Et donc, il engage une campagne de presse pour interdire au gouvernement de revenir sur cette déclaration de culpabilité, on pourrait dire. Et donc, le procès devient inévitable. Alors, après, là, on a toutes les tares d'un procès secret, puisqu'il est à huis clos, et puisque quand même... celui qui est chargé de l'instruction du dossier, donc qui est un officier aussi, donne le jour de l'audience un dossier à la connaissance du tribunal sans que personne d'autre n'ait eu connaissance de ce dossier et sans que personne n'en ait jamais connaissance. C'est-à-dire, on ne saura jamais...
Ah, on ne saura jamais ce qu'il y avait dans le dossier.
On ne saura pas. Donc il est déclaré à l'unanimité, condamné, dégradation, déportation, forteresse militaire... etc., et casser le sabre. On a tous les images en tête,
oui.
de ce sabre cassé, cet homme dégradé devant une foule haineuse, embarqué à La Rochelle, puis s'en va en Guyane, et c'est l'île du diable.
— C'est l'île du diable.
— Bien. Et ses amis se battent pour obtenir la réhabilitation. Il y a des changements à la tête des services secrets. Et le nouveau responsable, le qui s'appelle Picard, lieutenant-colonel Picard, il y a eu un film récemment qui nous a reparlé de ça.
— Polanski, oui.
— Voilà. Et le colonel Picard, lieutenant-colonel, donc, est frappé de la similitude entre l'écriture du bordereau et celle d'un autre officier qui s'appelle Esterhazy, qui était en accointance avec les militaires allemands. Donc il en arrive au fait que... Donc le chef du service, quand même, de renseignement, en arrive au fait qu'il y a une erreur judiciaire. Ses supérieurs lui ordonnent de garder le silence. Et ils le démettent de ses fonctions.
Ils le démettent de ses fonctions, oui.
Donc la chose jugée, on ne revient pas sur la chose jugée. Quand bien même, elle aurait été un pur scandale judiciaire.
Ouais, surtout si la chose jugée est israélite, quoi, j'imagine.
Ah, ça, oui. À l'époque, oui. Alors on remplace cet homme par le colonel Henri. Et le colonel Henri, lui produit des nouveaux documents. Il n'y a pas de problème. Esterhazy, qui aurait fourni le vrai bordereau, donc fourni les renseignements à l'ennemi, est jugé. Et lui, il est acquitté. Il est acquitté à l'unanimité. Donc c'est toujours Dreyfus qui est le coupable. Ce qui fait dire au Premier ministre de l'époque, il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir.
Encore moins d'affaires Esterhazy.
Ah, surtout. Et là, eh bien, on a un homme qui prend des risques. Alors, je le dis rapidement, mais c'est à la suite quand même de tout un travail d'enquête et surtout de toute une travail de lobbying, on dirait maintenant, de la famille Dreyfus, des amis, etc. Et il prend la tête donc en comité de soutien, et c'est le fameux J'accuse de Zola,
oui,
qu'il publie dans l'Aurore. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en disant « j'accuse », il dénonce des officiers qui ont trafiqué les documents. Il ne dit pas « j'accuse ».
Oui, ce n'est pas, c'est une accusation vague.
Ah non, pas du tout. Il accuse les noms d'officiers qui ont trafiqué les documents.
Donc,
il est poursuivi, Zola. Et il est condamné à un an de prison. Donc, il prend le risque d'être condamné à un an de prison, lui, dont la notoriété est grande, lui qui est quand même quelqu'un de très connu, pour faire parler de l'affaire. Alors évidemment, à partir du moment où il est condamné, donc ça veut dire qu'il a menti, mais c'est une étape supplémentaire, et c'est là où ça coupe la France en deux. Les uns parlent de l'honneur de l'armée, les autres de l'honneur de la justice. Les anti-Dreyfusards, la Libre Parole, le Gaulois, le Petit Journal, tout le monde s'y met. Là, on rejoint notre rumeur populaire. Et puis, alors, on parle des antipatriotes. Enfin bon, je vous laisse imaginer. Second coup de procès, pression sociale ou remords du colonel Henri, celui qui avait contribué à la fausse lettre, deuxièmement. Le colonel Henri avoue avoir fabriqué un faux et il se suicide dans sa cellule. C'est du romanesque. Hein.
Ouais, c'est vraiment du romanesque.
Et là, à partir de là, on ouvre, réouvre le procès. C'est une campagne de réhabilitation. Mais comme on ne veut pas complètement perdre la face, il n'est pas réhabilité. Il est coupable avec des circonstances atténuantes.
C'est terrible. C'est encore
terrible.
Pire.
C'est terrible. Ouais. Et il est condamné à 2 ans de détention, ce brave Dreyfus. Alors, 10 jours plus tard, on signe sa grâce. Donc, autrement dit, de nouveau circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. La pression, alors là, c'était la pression, on va dire, gouvernementale. Qui faisait qu'on ne pouvait pas se déjuger.
C'est un combat politique hein, aussi,
absolument,
forcément, très politique.
Et un combat qui fait que le courage eût été de reconnaître les erreurs, mais ça aurait sans doute fait tomber une quantité industrielle de gens qui tous avaient crié haut et fort qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Donc, courageux mais pas téméraire. On dit « Oh, il est coupable, mais pas trop
hein. ». Bon. Le courage de Zola est d'autant plus frappant qu'il y a eu vraiment aussi une ligne de fracture au sein de la gauche de l'époque. On sait que Jaurès, par exemple, n'avait pas envie de prendre la défense de Dreyfus parce que c'était un riche, tout simplement, qui venait d'un milieu bourgeois.
Oui, il y avait ça aussi.
C'est intéressant.
Il y avait l'antisémitisme. Il y avait effectivement une gauche qui était, de ce point de vue, assez frileuse, ou en tout cas qui avait des principes extrêmement forts. Autrement dit, il y avait des coupures dans la société partout.
Voilà, partout.
Partout. Ouais. Et avec au milieu ce brave Dreyfus qui n'avait sans doute pas les épaules assez larges pour supporter tout ça.
Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas ce qu'il est
devenu. Si, il est décoré de la Légion d'honneur dans la cour militaire et je crois qu'il fait la guerre 14 et qu'il meurt, j'allais dire, tranquillement dans son lit. Ça, j'en suis pas sûr. Les historiens qui sont à l'écoute vous passeront peut-être un coup de téléphone. Mais en tout cas, il a la Légion d'honneur et il est bien sûr réhabilité. Et c'est la Cour de cassation qui, en 1906, donc vous voyez quand même le dit cette fois, non, il est innocent, il est réintégré, promu chef d'escadron, etc. Bon, au-delà de la personne de Dreyfus et de cette affaire, ce que j'ai trouvé en tout cas personnellement intéressant, c'est la montée en puissance de la rumeur.
De la rumeur, oui.
De la rumeur.
Qui êtes-vous aujourd'hui est devenu quelque chose d'épouvantable.
D'épouvantable. Et là, à l'époque, alors autant de l'affaire Callas, c'était la pression populaire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on comprend que c'est le peuple manipulé par l'un ou par l'autre. Là, c'est les journaux. Dans l'affaire de Dreyfus, c'est là va vraiment le rôle d'une presse qui se déchaîne. Alors, je ne voudrais surtout pas faire de parallèles qui n'ont pas lieu d'être, mais quand on voit certaines chaînes d'information continue qui, toute la journée, répètent, ressassent les mêmes choses... Il est évident qu'on ne peut pas ne pas faire une forme de parallèle. Après, je m'arrête là, parce que je ne suis pas compétent.
— Et on ne peut pas s'empêcher de penser à Samuel Paty, parce que à l'origine, finalement, de son exécution dans la rue, c'est la rumeur lancée par un parent d'élève disant « Ce cas-là n'aime pas l'islam, n'est islamophobe, etc. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être à l'origine.
— Et on appuie sur un bouton et on a 1000, 10 000 personnes qui suivent. Et avec tous les excès que ça peut imaginer, d'où, si on revient à notre idée de justice, la nécessité pour le juge de garder cette tête froide, d'être au-delà de toutes les rumeurs, les pressions, qu'elles viennent d'un côté ou de l'autre. Je pense à la victimologie qui est aujourd'hui quand même quelque chose de très présent, qu'il faut respecter, mais qui parfois peut prendre des allures extrêmement fortes. On est jugé avant même, enfin on parle du tribunal médiatique.
Bien sûr.
C'est pas sans raison.
On arrive pratiquement au terme de cette émission. J'avais juste une toute petite question qui pourrait amorcer un sujet futur. Une petite chose m'a mis la puce à l'oreille tout à l'heure. Vous avez parlé, c'était pour l'affaire Dreyfus, de l'intervention d'un graphologue.
Oui.
Qui avait dit, ça ressemble à l'écriture de Dreyfus. Et je repensais à l'affaire Omar Radad dont on reparle à nouveau aujourd'hui.
Oui.
Et les graphologues, c'était planté parce qu'ils avaient, considéré que c'était l'écriture de madame...
Eh oui. C'est pas vraiment une science exacte.
C'est pas vraiment une science exacte.
C'est pas vraiment une science... Mais ils le disent eux-mêmes, du reste. Ouais. On utilise ça comme... On appelle ça, dans un autre registre, on appelle ça des faisceaux d'indices, quoi. C'est-à-dire que quand on a ça, plus ça, plus ça, il n'y a pas de preuve absolue. Pas de preuve absolue. Alors là, je m'attirais des sarcasmes, non, mais... Des remarques. Mais l'ADN, pour moi, par exemple, ne constitue pas une preuve absolue. Ce n'est pas une preuve absolue. C'est une preuve scientifique, aujourd'hui, très, très avancée, qui nous dit que dans 10 ans, on ne dira pas « Oui, mais là, il y avait telle faiblesse ». Aujourd'hui, c'est inaudible, ce que je dis. Mais vous voyez, les graphologues de l'affaire Dreyfus, les empreintes... on est monté en puissance. Il n'y a pas de preuve absolue. Et les erreurs, souvent, les grandes erreurs, viennent souvent d'un petit dérapage comme ça.
Oui.
Ça ne peut pas être l'écriture de quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup, Philippe Arbouche. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour une nouvelle édition de L'Audience est ouverte. En attendant, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez réécouter l'émission que vous venez d'entendre sur www.radiorentiel.fr. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos suggestions, de vos remarques sur ce qui se dit ici dans les studios de Radio Rentiel. À très bientôt.
Au revoir.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Au Mont-Païs, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Au Mont-Païs, au Toulouse.